put a spell on you.
Sur le théâtre de la Gamelle.
Bonjour.
Avec Marion Grenier. Bonjour.
Bonjour.
Et Florent Fichot.
Bonjour. Et Anaïs Saint-As.
Merci. Oui, donc nous sommes tous là pour parler aujourd'hui et plutôt vous lire une pièce de Mayakovsky, Vladimir Mayakovsky, qui s'appelle Le nuage en pantalon. Donc c'est dans la continuité de notre thématique sur l'agitprop, puisque Mayakovsky a fait partie des écrivains des pièces d'agitprop et puis il a été aussi responsable de la rédaction ainsi que de la création des affiches pour le département propagande du Parti communiste dans les années 20. Et puis aussi parce que on aime beaucoup ce texte, n'est-ce pas Florent ?
Oui, on aime beaucoup. On en a déjà parlé il y a très longtemps ici.
Ouais, Florent en fait avait monté la pièce en 2003 au Théâtre de l'Élysée.
Oui.
Et puis moi j'ai toujours un peu adoré ce texte.
Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que l'agitprop ?
Ouais, donc le théâtre d'agitprop, c'est vrai qu'on avait fait deux émissions consacrées à cette thématique au théâtre de la Gamelle. Donc c'est un mouvement en fait artistique qui est né avec la révolution russe à partir de 1917, mais qui s'est propagé dans toute l'Europe et au-delà, même aux États-Unis, et qui était la création spontanée d'ouvriers en lutte contre la société capitaliste, le patronat, etc. Donc c'était volontairement de l'agitation et de la propagande par le biais du théâtre sur les planches pour glorifier et parler de ce monde nouveau.
Un théâtre populaire en réaction à l'art bourgeois aussi. C'est très présent dans le texte qu'on va lire.
Et donc ouais, justement, donc Mayakovsky lui faisait partie d'un mouvement artistique qui, pour lui et la personne, les personnes avec qui il a créé donc le futurisme, n'était pas une école, mais une nouvelle attitude qui justement plaidait pour la destruction du
patrimoine,
du patrimoine, de l'art ancien, de l'art bourgeois, du vieil art. Et du coup, donc avec Bourliouk, qui est donc un poète et écrivain, il a fondé ce mouvement, ainsi qu'avec Tretiakov, il a fondé une revue qui s'appelle Front Gauche des Arts, LEF, L-E-F, qui était une revue d'avant-garde dans les années 20. Voilà, Tretiakov, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un maître à penser pour Brecht, donc c'était aussi un écrivain, un poète, qui a écrit énormément pour l'agitprop aussi. Et oui, donc le texte d'aujourd'hui, donc Le Nuage en pantalon, il a été écrit en 1914. Et c'est, il révolutionne complètement les codes de la poésie traditionnelle. Mmh. Et c'était un véritable manifeste pour le futurisme. C'est un poème manifeste, en fait, on peut dire.
C'est un poème donc assez long, enfin assez long, mais pas non plus fleuve, et en quatre parties. Alors j'ai pas trop tout en tête, mais il l'avait résumé à une époque en disant que c'était un poème qui, où les quatre parties c'était « Abat votre amour, abat votre art, abat la société, et il m'en manque un. »«
Abat votre ordre, peut-être. »«
Abat l'ordre, et peut-être il y avait abat la religion. »
Ouais, c'est possible.
Voilà,
ouais.
C'était
ouais,
les quatre.
Ouais,
ouais. Voilà, on est un peu flou, mais mm-hmm. en gros, vous comprenez l'idée, quoi.
Et ça aussi... va être éclairci à la lecture.
Voilà, exactement.
On l'espère.
Mayakovsky aussi, il était hyper. Il faisait des affiches, des poèmes, il a fait des films, il écrivait dans des revues. Enfin bon, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Ouais, il a adhéré à 15 ans au Parti social-démocrate mm-hmm. Russe, les bolcheviks. Il a participé à la révolution de 1905, il a été arrêté plusieurs fois et c'est en prison en fait qu'il a découvert la poésie mmh. en 1909 quand il était emprisonné. Que c'est à partir de là qu'il a créé sa première pièce en fait. Et sa première pièce, c'est un titre ultra provoquant, c'est Vladimir Mayakovsky.
Tout à fait.
Ça parle de lui. Il a été hué, il a été détesté, enfin... Il y a eu énormément de controverses en fait autour de ses écrits parce que c'était un éminent provocateur et puis un poète extraordinaire.
Moi, ce que j'admire vraiment chez lui, pour le coup, avec ce truc de Vladimir Mayakovsky, c'est qu'il était à l'image de ses idées. Il se contentait pas de les coucher sur le papier ou de. Il essayait vraiment de forger sa vie pour les faire correspondre à ce qu'il pensait, et autant au niveau intime qu'au niveau politique. Enfin voilà. Et pour lui, il y avait aucune séparation. Et on va le sentir aussi dans Le Nuage en pantalon qu'on va lire à quel point pour lui sa personne est politique tout entière, sa manière de gérer son amour, sa manière de boire des coups, sa manière de se balader dans les rues, sa manière de parler aux autres, de rencontrer les autres. Et il essayait d'être vraiment cohérent et extrême là-dedans, et c'est quelque chose que j'admire énormément. Voilà.
Bah, je vous propose qu'on découvre ensemble donc le texte, donc Le Nuage en pantalon. On s'est séparé, on s'est divisé la lecture du texte entre nous trois. Et donc Florent va lire le prologue et le prologue, Marion la première partie, moi la deuxième, et puis Florent va lire la quatrième partie. On fait une petite coupe de la troisième partie parce que par manque de temps, mais on vous conseille vraiment la lecture de ce texte en entier.
Très bien. Prologue. Votre pensée qui rêvasse sur votre cervelle ramollie tel un laquais obèse sur sa banquette graisseuse, je m'en vais l'agacer d'une loque de mon cœur sanguinolent et me repaître à vous persifler insolent et caustique. Mon âme n'a pas pris un seul cheveu blanc et il n'y a en elle aucune tendresse sénile. En fracassant le monde par le bourdon de ma voix, je m'avance, beau gosse, mes 22 ans en prime. Tendre, vous couchez l'amour sur les violons, les rustres le flanquent sur des cymbales, mais pourriez-vous comme moi retourner votre peau pour n'être plus qu'un haut, que de haut en bas, que des lèvres? Apprenez ceci. Dans le salon, tout en batiste, une digne employée de la Ligue Angélique calmement feuillette ses lèvres comme une cuisinière les pages de son livre de recettes. Si vous voulez, furieusement ma chair se déchaînera, ou bien, changeant de ton comme les couleurs du ciel, si ça vous chante, je serai tendre, irréprochablement, non plus un homme alors, mais un nuage en pantalon. Je ne crois pas à la Nice des fleurs. Par moi, de nouveau sont glorifiés les hommes vermoulus comme un hôpital, les femmes élimées comme un proverbe.
Vous pensez que c'est un délire de malaria ? C'est arrivé, vraiment, à Odessa. Je viendrai à 4 heures, avait dit Marie. 8 heures, 9 heures, 10 heures. Et voici que le soir morose, décembreux, a quitté les fenêtres pour plonger dans l'angoisse de la nuit. Dans mon dos décrépit, ricanent et hennissent les candélabres. À 7 heures, qui m'aurait reconnu ? énorme masse noueuse en train de gémir et de se tordre. Que peut bien vouloir un tel bloc ? Mais c'est que ce bloc veut beaucoup de choses. Parce que pour soi, il n'est pas important d'être de bronze, d'avoir pour cœur un morceau de fer froid. La nuit, on veut enfouir son tintement dans du mou, du féminin. Et me voilà, énorme, plié en deux dans la fenêtre, faisant fondre du front la vitre du carreau. Est-ce de l'amour qui va se produire ? Et quel amour, grand ou minuscule ? Comment serait-il grand dans un corps pareil ? Ce sera sans doute un petit, tout paisible, amouré. Elle sursaute au klaxon des autos, elle aime le grelot des tramways à chevaux, et toujours et encore le visage planté dans la face grêlée de la pluie. J'attends, éclaboussée par la marée humaine. Et minuit, égorgeur, brandissant son couteau, m'a rattrapée à la course. La douzaine meurt est tombée, comme du billot la tête du condamné. Sur les vitres, les gouttes de pluie grise hurlent à l'unisson, entassent les grimaces comme si aboyaient les chimères de Notre-Dame de Paris. Maudite ! Alors ça ne suffit encore pas ? Bientôt les cris vont déchirer ma bouche. J'entends que sans bruit, comme un malade de son lit, un air a bondi. Et voilà que d'abord il a fait un pas, tout doucement, puis s'est mis à courir, inquiet, net. Maintenant, c'est deux autres avec lui qui se déchaînent en crécelles furieuses. À l'étage du dessous, le plafond a craqué. Les nerfs, grands, petits, nombreux, galopent en furie. Et déjà, ils ont les jambes coupées. Et la nuit, dans la chambre, fait monter la vase. Et l'œil alourdi ne peut s'en arracher. Les portes ont tout à coup cogné, comme si l'autel claquait des dents. Tu es entrée, coupante comme un tenet, et tourmentant le chamois de tes gants, tu as dit « Vous savez, je me marie. » « Eh bien, mariez-vous ? Tant pis, je saurai me dominer. Voyez comme je suis calme, calme comme le pouls d'un mort. Souvenez-vous, vous disiez « Jack London, l'argent, l'amour, la passion. » Moi, je ne voyais qu'une chose, vous étiez une joconde qu'il fallait voler. Et on vous a volé. À nouveau, amoureux, je rentrerai en lice, illuminant la flamme, de flamme la courbe des sourcils. Et quoi ? Même dans une maison qui a brûlé, parfois des vagabonds arrivent à survivre. Vous provoquez ? Vous avez moins d'émeraudes de folie que le mendiant en a de sous. Rappelez-vous, Pompéi a péri quand on a déchaîné le Vésuve. Eh, messieurs, amateurs de sacrilèges, de crimes et de carnages, avez-vous vu la chose la plus terrible qui soit ? Mon visage, quand je suis absolument calme, et je sens que moi, pour moi, c'est trop petit. Quelqu'un obstinément veut s'en échapper. Allô ? Qui est à l'appareil ? Maman ? Maman ! Votre fils est somptueusement malade. Maman ! Il a un incendie de cœur. Dites à mes sœurs, Lihouda et Olia, qu'il ne sait plus où se cacher. Chaque mot, même les plaisanteries qu'il éructe d'une bouche calcinée, se précipitent comme une prostituée nue hors d'une maison publique en flammes. Les gens reniflent, ça sent le roussi. Et ceux-là qui accourent tout brillants, casqués. Non, pas ces énormes bottes. Dites aux pompiers que sur un cœur en flammes, on monte chaussé de caresses. J'irai moi-même. Je roulerai dehors, comme des tonneaux, mes yeux pleins de larmes. Laissez-moi m'appuyer sur mes côtes. Que je saute, que je saute, que je saute, patatras. On ne peut bondir hors de son cœur. Sur le visage calciné, à la fissure des lèvres, un petit baiser charbonneux agrandi pour s'élancer. Maman, je ne peux pas chanter. Dans la chapelle du cœur, le lutrin brûle. Les silhouettes noircies de mots et de chiffres sortent du crâne, comme les enfants s'échappent d'un édifice en flammes. Ainsi, l'effroi dressait pour s'accrocher au ciel les bras enflammés du Lusitania. Vers les gens trémulants, dans le calme des gîtes, la lueur aux sans-yeux tire sur les amarres. mon dernier cri. Toi au moins, à la face des siècles, gémis que je brûle.
Par toute la terre, chaque prolétaire a frémi d'un immense espoir. Ce d'Oviedo, d'un splendide élan, ont rejeté soudain leur carcan, ont pris le pouvoir. Ce d'Oviedo, la victoire entière, par toute la terre, ne viendra qu'après maints efforts. Ceux ont lancé l'action. L'Espagne a touché du doigt l'essor des révolutions. Ah, Oviedo, c'est Durga tranquille de la mine hostile, armée d'explosifs de chantier. Sous leur barrette, bourgeron noir, ont pris d'assaut palais et manoir, héros ouvriers, ceux d'Oviedo. À leur cigarette, allumant la mèche de leur grenade de fer blanc, pendant des jours, ils ont repoussé les mercenaires contre eux lancés par les possédants. Ceux d'Oviedo, c'est sans sous ni maille, en pleine bataille, ont protégé les gens, les biens. Parmi l'horreur de la lutte à mort, il préparait un plus juste sort, les droits et le pain, ceux d'Oviedo. Tremblante de haine, lâche et inhumaine, la réaction les écrasa. Toute une armée à coups de canon fit d'Oviedo un tombeau sans nom. Partout on trembla pour Oviedo. L'âpre bourgeoisie, malgré ses tueries, n'aura nul repos désormais. L'Espagne entière a frémi d'horreur. Le jour approche où par sa fureur seront bien vengés.
Rebonjour, vous êtes toujours sur l'émission Le Théâtre de la Gamelle sur Radio Canu en direct. Nous vous lisons aujourd'hui Le Nuage en pantalon de Vladimir Mayakovsky. Deuxième partie.
Glorifiez-moi. Je ne suis pas égal au grand. Sur tout ce que l'on a créé, j'écris le mot « nihil ». Je ne veux plus jamais rien lire. Les livres ? Eh bien quoi les livres ? Autrefois j'ai pensé, c'est ainsi que se font les livres. Le poète arrivait, entrebâillait légèrement les lèvres et l'innocent inspiré, sans plus, se mettait à chanter. Comme il vous plaira. Mais en réalité, avant que le chant ne commence, on chemine longtemps, rongé par les durillons de la marche, et doucement dans la vase du cœur barbote le stupide poisson de l'imagination. Pendant qu'on fait bouillir, raclée de rimes, quelques mixtures d'amour et de rossignol, la rue se tord, privée de langue, sans rien pour crier ni parler. Nous élevons de nouveau, orgueilleux, les tours babyloniennes de nos villes, mais Dieu rase les villes, les nivelle, en confondant toute parole. En silence, la rue active le supplice, le cri, tout droit est sorti du gosier. Les fiacres décharnés, les taxis flasques se sont hérissés, coincés dans la gorge. Ils ont piétiné la poitrine jusqu'à l'aplatir de Ftizi. Et la ville, avec les ténèbres, a verrouillé la route. Quand elle eut pourtant craché la cohue sur la place, repoussant le parvis qui lui poignait la gorge, on se prit à songer. Dieu que l'on a volé parmi la chorale des archanges s'avance pour châtier. Mais la rue s'accroupit et se met à brailler. Allons bouffer ! Les croupes, gros et petits, griment les sourcils menaçants de la ville, mais dans la bouche se décomposent les cadavres des mots morts. Seuls deux mots vivent et s'empiffrent. Salaud. Et quelque chose qui ressemble à choucroute. Les poètes, délavés de pleurs et de sanglots, ont fui la rue, la tignasse en bataille. Comment chanter avec ces deux mots, et la demoiselle, et l'amour, et la fleurette sous la rosée ? À la suite des poètes, une multitude, les étudiants, les prostituées et les artisans. Messieurs, arrêtez-vous ! Vous n'êtes pas des mendiants, vous ne devez demander nulle aumône. À nous, les robustes, qui faisons des pas d'une toise, de ne pas les écouter, mais de les déchirer, eux, qui se sont collés en rallonge gratuite à chaque lit de deux places. Faut-il humblement les solliciter ? Aide-moi. Les implorer pour un hymne ou pour un oratorio ? Nous-mêmes, nous sommes des créateurs dans cet hymne ardent, le bruit de la fabrique et du laboratoire. Que m'importe Faust, en fusée d'artifice, glissant sur le parquet céleste avec un Méphistophélès ? Je sais que le clou dans ma botte est plus cauchemardesque que toute l'imagination de Goethe. Moi, bouche d'or, dont chaque mot enfante une âme neuve et célèbre la fête du corps, je vous dis, la plus infime des poussières de la vie a plus de prix que tout ce que j'ai fait et que je ferai. Écoutez, gesticulant et gémissant le Zarathoustra d'aujourd'hui, qui prêche, criant des lèvres. Nous, mal éveillés, la face comme un drap et les lèvres pendantes comme un lustre, nous, forçats de la cité les proseries où l'or et la boue ont propagé les plaies, nous sommes plus purs que l'azur vénitien, lavés d'un seul coup par les mers et les soleils. Je me fiche qu'il n'y ait que les Homères, chez les Homères et les Ovides, nul homme qui soit comme nous, marqué par la variole de la suie. Je sais que le soleil blêmirait en voyant les mines d'or de nos âmes. Nos muscles et nos nerfs sont plus sûrs que les prières. Allons-nous implorer les grâces du temps ? Chacun de nous, dans ses cinq doigts, tient les courroies conductrices du monde. Cela nous fit gravir le Golgotha des auditoires, de Pétrograd, de Moscou, d'Odessa et de Kiev, et il n'en fut pas un qui ne cria « Crucifiez, crucifiez-le !» Mais pour moi, homme, et même vous qui m'avez offensé, vous m'êtes plus que tout proche et cher. Avez-vous vu comme un chien lèche la main qui l'a frappé ? Moi, qui suis la risée des gens d'aujourd'hui, comme une trop longue et scabreuse anecdote, je vois venir cela que nul ne voit à travers les montagnes du temps. Là où bute la courbe vue des hommes, à la tête des hordes affamées, sous la couronne d'épines des révolutions s'avance l'an 1916. Mais moi, je suis pour vous l'annonciateur. Je suis là, partout, où est la douleur. Sur toute larme qui coula, je me suis mis en croix. On ne peut déjà plus rien pardonner. J'ai brûlé les âmes où l'on cultivait la tendresse et c'est plus difficile que de prendre d'assaut mille et mille Bastilles. Et quand, à sa venue, proclamant la révolte, vous irez vers le Sauveur, je m'arracherai l'âme et la piétinerai afin de l'agrandir et vous la rendre ensanglantée comme un drapeau.
Geschichte, du Hit, wollen dich hinten
Vous êtes bien sur le théâtre de la Gamelle et nous sommes actuellement en train de lire Le Nuage en pantalon de Maïakovski, la troisième partie.
Mais à quoi bon tout cela ? Et pourquoi dans la clarté joyeuse des bravos, quelle levée de poings sale ? Elle est venue, voilant de désespoir à la tête l'idée des asiles de fous. Et de même que lorsque sombre un navire de guerre étouffé de spasmes, l'on saute par les écoutilles béantes, Bourlioukh, affolé, se glissait à travers son œil déchiré jusqu'au cri. Écorchant à peine sa paupière en pleurs, il est sorti, s'est dressé, s'en est allé. Avec une douceur inusitée chez un homme aussi replet, il a dit tout à coup « C'est bien ». C'est bien quand l'âme est à l'abri des importuns dans une blouse jaune. C'est bien lorsque, jeté sous les dents de l'échafaud, on peut crier « Buvez du cacao Van Houten !» Et cet instant, feu de Bengale, haut en éclat, je ne l'aurais pour rien d'autre échangé, je ne l'aurais... Émergeant de la fumée des cigares, s'allongeait en verre à liqueur la gueule d'ivrogne de Séverianine. Saos s'appelait poète et carcaillait tout gris comme une caille. Il faut de nos jours un casse-tête pour fendre le crâne du monde. Vous, que harcèle une seule idée, danse-t-il avec élégance ? Regardez de quoi je m'amuse, moi. Tricheur aux cartes et souteneur sur les trottoirs, loin de vous qui pataugez dans vos amourettes et dont les larmes ont ruisselé de siècle en siècle, je m'en irai, moi, le soleil vissé pour monocle dans mon œil écarquillé. Incroyablement accoutré, je m'en irai de par le monde pour séduire et pour me brûler, et devant moi je conduirai Napoléon en laisse comme un bulldog. Toute la terre en femme s'étendra, palpitante de chair et s'offrant au désir. Les objets vont s'animer et leurs lèvres chuchoteront. Soudainement, les nuages et toute la nuagité soulevèrent au ciel une houle inouïe, comme si s'égaillaient des ouvriers en blanc, déclenchant au ciel une grève sauvage. Féroce, le tonnerre a surgi d'un nuage en mouchant par défi ses narines géantes et la face céleste un instant fut plissée par un rictus sévère d'un Bismarck de fer. Et quelqu'un, empêtré dans les raies des nuages, tendit la main vers le café comme le ferait une femme à la manière délicate d'un affût de canon. Vous pensez, c'est le soleil qui tendrement tapote la joue du café ? Mais celui qui revient pour fusiller les insurgés, c'est le général Galifet. Promeneur, tirez vos mains de vos poches, prenez une pierre, un couteau ou une bombe. Si l'un de vous n'a plus de main, qu'il vienne pour se battre avec son front. En avant, les crèves la faim, vous les esclaves, vous les souillés marinant dans la fosse à puce. En avant, les lundis et les mardis, avec du sang, nous allons les repeindre en jour de fête. Que la terre se souvienne sous les couteaux de ceux qu'elle voulait réduire à la banalité. La terre, à l'embonpoint d'une maîtresse que Rothschild aurait cajolée, qu'aussi bien claquent les drapeaux dans la fièvre du feu qu'en toute fête respectable. Réverbère, hissez plus haut vos potences, les corps ensanglantés des épiciers. Injuriant, suppliant, entaillant, fouillant afin de mieux planter ses crocs dans les côtes. Dans le ciel rouge comme la Marseillaise, le coucher du soleil crevait en tressaillant. Déjà la folie. Rien n'arrivera. La nuit surviendra, mâchera, avalera. Regardez, de nouveau le ciel nous défie avec une poignée d'étoiles éclaboussées par leur traîtrise de Judas. Elle est venue. Comme Mamaï, elle festoie son cul, elle écrase la ville. Nos yeux ne transperceront pas cette nuit noire comme Azef. Je me blottis, je me recoigne dans les masses troquets, j'asperge de vin mon âme et la nappe. Et je vois, dans un coin les yeux ronds, la Sainte Vierge et son regard me fouille le cœur. Pas question d'offrir l'auréole de ce bariolage banal à une bande d'ivrognes, tu le vois. Une fois de plus, on préfère Barabbas au porteur de croix bafoué. Il se peut qu'à dessein, je sois dans l'humaine bouillie par mon apparence quelconque, moi, et qui suis peut-être le plus beau de tous tes fils. À ceux-là, moisis dans la joie, accorde-leur de devenir, mais le temps de la mort vient vite, des enfants qui grandiront. Que les garçons deviennent pères et que les filles soient fertiles, accorde aux nouveau-nés d'acquérir la toison blanchie par la science des mages. Et ils viendront, ils baptiseront leurs enfants du nom de mes poèmes. Moi qui chante la machine et l'Angleterre, peut-être suis-je simplement le 13e apôtre du plus banal des évangiles. Et tandis que, d'heure en heure, jour et nuit, ma voix obscène, tonitrue, Jésus-Christ, hume peut-être les myosotis de mon âme.
Sur le théâtre de la Gamelle avec la lecture du nuage en pantalon de Mayakovsky. Quatrième partie.
Maria ! Maria ! Maria, laisse-moi entrer, Maria ! Je ne puis rester dans les rues. Tu ne veux pas ? Tu attends que mes joues se crevassent et que, goûtée par tous, affadie, je vienne, tout édentée, marmottant que je suis aujourd'hui. Étonnant d'honnêteté ? Maria, tu vois, j'ai déjà commencé à me voûter. Que les gens dans les rues percent la graisse des triples mentons étagés, qu'ils fassent de petits yeux usés par 40 ans d'errance et ricanent devant mes dents, où reste encore le pain rassis des caresses d'hier. La pluie en pleurs inonde les trottoirs. Un filou, cerné par les flaques, détrempé lèche le cadavre des rues que les pavés ont lapidé. Et sur les cils gris, oui, sur les cils où le gel accroche en glaçons les larmes qui coulent des yeux, oui, par les yeux baissés des gouttières, la gueule de la pluie aspire tous les piétons. Et dans les fiacres se pavane un athlète gras derrière un autre. Les gens éclatés, gavés de mangeailles et leurs graisses suintées par toutes les fissures des fiacres s'écoulaient, flots troubles, le pain sucé et la viande mâchée des vieilles côtelettes. Maria, mais comment incruster un mot doux dans le gras d'une oreille ? L'oiseau a besoin de chansons, affamé et sonore, il chante. Et moi, je suis un homme, Maria, un homme simplement, que la nuit psystique a craché dans la main sale de Presnia. Maria, m'acceptes-tu telle que je suis ? Laisse-moi entrer, Maria. Mes doigts crispés tordent le cou de fer de ta sonnette. Maria ! Les rues sont tentées de bêtes féroces. Les doigts de la foule à ma gorge gavent des écorchures. Ouvre. J'ai mal. Tu vois, les épingles à chapeau sont plantées dans mes yeux. Elle a ouvert. Ma petite, n'aie pas peur. Que pèsent sur mon cou de taureau, en humide montagne, les femmes au ventre de sueur. C'est que je traîne à travers ma vie des millions d'immenses amours purs et des milliers de millions de sales petites amourettes. Ne crains pas qu'à nouveau, par un temps gris de trahison, je m'attache aux mille frimousses si jolies de celles qui ont aimé Mayakovsky. Mais elles sont toutes une dynastie de reines couronnées au cœur d'un fou. Approche-toi, Maria, dans l'impudeur de ta nudité ou dans le frisson de l'émoi, mais donne-moi le charme intact de tes lèvres. Mon cœur et moi, jamais n'avons ensemble atteint le mois de mai. Dans la vie que l'on a vécue, il n'y a que le centième d'un avril. Maria, le poète écrit des sonnets à Tiana, et moi, qui suis tout de chair, homme tout entier, je demande simplement ton corps, comme demandent les chrétiens, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne, Maria. Maria, j'ai peur d'oublier ton nom, comme le poète a peur d'oublier un certain mot né dans la souffrance des nuits, mot en grandeur égal à Dieu. Ton corps, j'en prendrai soin et l'aimerai comme un soldat mutilé par la guerre. Inutile, sans lien, prends soin de son unique jambe. Maria, tu ne veux pas ?
Tu ne veux pas. Ah ! Il me faudra donc encore, sombrement, prendre mon cœur et le porter dégoulinant de larmes comme un chien ramène vers sa niche sa patte écrasée par un train. Je réjouis le chemin par le sang de mon cœur. Il colle en fleurs la poussière de ma tunique. Mille fois comme Hérodiade autour de la tête coupée de Saint Jean-Baptiste, le soleil autour de la terre dansera. Et lorsque toutes mes années danseront leur dernière danse, ma trace s'étendra par millions de gouttelettes de sang jusqu'à la maison de mon père. J'émergerai, crasseux, tant de nuits passées dans les caniveaux. À ses côtés, je me tiendrai, je me pencherai pour lui glisser à l'oreille. Écoutez, Monsieur Dieu, comment pouvez-vous sans ennui tremper chaque jour vos yeux si tendres dans cette confiture de nuages ? Allons, vous qui savez, organisons un carrousel sur l'arbre de la science du bien et du mal. Tu seras dans chaque armoire omniprésent et nous servirons de tel vin que même le Mossad Pierre, l'apôtre, voudra danser un tour de kikapou. Et nous repeuplerons le paradis d'Ève, toute petite, si tu leur donnes, cette nuit même, je t'admènerai les plus jolies filles de tous les boulevards. Le veux-tu ? Tu ne le veux pas ? Tu secoues ta chevelure ébouriffée, tu fronces ton sourcil gris, tu te dis, celui-là, derrière toi, qui a des ailes, sait-il ce que c'est que l'amour ? Je suis un ange, moi aussi. Je l'ai été. Tel un agneau de sucre, j'ai scruté le fond des yeux, mais moi, je ne veux plus offrir à des juments des vases ciselés dans la pâte de sèvre des souffrances. Tout-puissant, tu as inventé cette paire de bras, tu as fait que chacun ait une tête, mais pourquoi n'as-tu pas voulu que l'on puisse sans souffrance embrasser, embrasser sans fin ? Je te croyais un dieu omnipotent, mais tu n'es apprenti qu'un petit dieu minable. Tu vois, je me penche et de la tige de ma botte je tire une haleine. Canaille d'ange, l'un contre l'autre, serrez-vous au paradis, les plumes hérissées d'effroi. Toi, l'imbibé d'encens, je t'ouvrirai le ventre d'ici jusqu'à la terre d'Alaska. Laissez, vous ne pourrez pas m'arrêter. Je mens. Ai-je vraiment le droit ? Il m'est impossible pourtant d'être plus calme. Regardez. Les étoiles sont de nouveau décapitées du sang de cette boucherie. Le ciel est rouge. Et toi, le ciel, chapeau bas, je m'avance. Pas de réponse. l'univers dort, son immense oreille posée sur sa patte piquetée d'étoiles.
Encore et toujours sur Radio Canu, à l'émission Le Théâtre de la Gamelle. Vous venez d'entendre Le Nuage en pantalon en totalité, un texte, un poème de Vladimir Mayakovsky. Il nous reste quelques minutes pour entendre le prologue et l'épilogue de la pièce Vladimir Mayakovsky, écrite par Vladimir Mayakovsky.
Est-ce vous qui comprendrait pourquoi, serein, sous une tempête de sarcasme au dîner des années futures, j'apportais mon âme sur un plateau. Larmes inutiles coulant de la joue mal rasée des places, je suis peut-être le dernier poète. Vous avez vu comme se balance entre les allées de briques le visage strié de l'ennui pendu, tandis que sur le cou écumeux des rivières bondissantes, les ponts tordent leurs bras de pierre. Le ciel pleure, avec bruit, sans retenue, et le petit nuage a au coin de la bouche une grimace fripée. Comme une femme dans l'attente d'un enfant à qui Dieu aurait jeté un idiot bancroche, de ses doigts enflés, couverts de poils roux, le soleil vous a épuisé de caresses. Importun, comme un bourdon. Vos âmes sont asservies de baisers. Moi, intrépide, je porte au siècle ma haine des rayons du jour. L'âme tendue comme un air de cuivre, je suis l'empereur des lampes. Venez à moi, vous tous, qui avez déchiré le silence, qui hurlez, le cou serré dans les nœuds coulants de midi. Mes paroles, simples comme un mugissement, vous révéleront nos âmes nouvelles, bourdonnantes comme l'arc électrique. De mes doigts, je n'ai qu'à toucher vos têtes, et il vous poussera des lèvres faites pour d'énormes baisers, et une langue que tous les peuples comprendront. Mais moi, avec mon âme boitillante, je m'en irai vers mon trône, sous les voûtes usées, trouées d'étoiles. Je m'allongerai, lumineux, revêtu de paresse sur une couche moelleuse de vrai fumier, et doucement, baisant les genoux des traverses. La roue d'une locomotive éteindra mon cou. Épilogue. C'est de vous que je parle quand j'écris tout ça. Pauvre rat. J'ai regretté de n'avoir pas de sein. Je vous aurais nourri comme une bonne nounou. Maintenant, je suis un peu desséchée. Je suis un vrai bienheureux. Mais en revanche, qui et où aurait pu ouvrir aux pensées un tel espace inhumain? C'est moi qui ai planté mon doigt dans le ciel et prouvé que c'était lui le voleur. Quelquefois, il me semble que je suis un coq hollandais ou bien le roi de Psoc. Mais d'autres fois, plus que tout me plaît, mon propre nom. Vladimir Maïakovski.
Paysagère. Aujourd'hui, j'étais très touché d'écouter ce texte, Le nuage en pantalon, cet auteur Maïakovski me fait toujours penser à un autre auteur français, c'est des écorchés vifs, et il s'appelle Adamov. Et dans mon univers personnel, j'ai souvent associé ces deux garçons à la fois écorchés vifs et engagés politiques. Et donc aujourd'hui, la mise en abîme, elle sera autour de la destruction du patrimoine. Vous avez peut-être entendu au début du texte qu'il est question de Pompéi. Il est très étonnant aujourd'hui qu'en Italie, alors que Pompéi, plus personne ne s'en occupe, que la maison des gladiateurs est en train de s'écrouler, c'est l'avant-garde, ce sont les révolutionnaires qui s'en affectent. Donc, je vous propose un petit texte un peu inspiré, je dirais plus par Adamov que par Maïakovski, mais c'est assez proche. Il s'appelle Pompéi. Alors les personnages, il y a l'air, le feu, la mer, la terre, avec la gracieuse participation de la cigale. 1. Émanation. L'enfant vient de jeter la cigale dans une bouteille pleine d'eau de mer. La terre. Une bouteille, une île, qu'est-ce que ça veut dire? Du moment qu'il y a la poussière, l'enfant doit comprendre ça. Il y a aussi la cendre. Je trouve la mer trop amère. La cigale dans la bouteille broute l'écume. La mer. Oh, cigale, je me renouvellerai, cigale. Tu ne broutes qu'une saison. Je ne m'explique pas la colère de la terre, ces histoires de poussière et de cendre. L'air. Loin de l'autre côté de la chair, c'est moi qu'elle cherche. Je parle de cette cigale. L'air, moi, qui l'a fait voler. C'est moi qu'elle cherche, cette cigale, c'est clair. La cigale. Pouh ! Je ne vole qu'au premier jour. Alors offrez-moi de quoi sucer, c'est tout. Le feu. Tu vas te coller sur du bois. Ce qui fait que tu brûleras sans savoir ce que tu perds. T'évanouiras avec la substance. À toi, j'offre le repos. Je me le dis à moi-même. À part. Quelle magnanimité! L'enfant a brisé la bouteille sur les galets. Scène 2. Secousse sismique. Terre. Une barbe à l'intérieur de la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? La peur de celle qui déborde des femmes sur l'intérieur des cuisses. Et d'ailleurs, j'ai remarqué cette curieuse tradition. Un grand nombre d'entre elles gomment cette écume à l'âge pubère. Sacrilège. Pourquoi font-elles ça? Ça m'échappe. Le feu. Les flammes montent bien plus haut que la croix, descendent bien plus bas que l'enfer. N'élève pas la brume sur les sacrilèges du petit matin. La terre. Il n'y en a pas, je me le dis à moi-même. L'air. Tout ça au large, le feu, l'eau, leur alliage en chaleur. J'en fais ma géographie à moi, l'air colorant les continents des couleurs de mon drapeau transparent. Même les mots pour moi sont un jeu. Alors, la mer. Et les saisons? Et les marées? Je suis la geôlière de l'autre grand fou qui me fait m'allonger sur les plages ou contracter mes vaisseaux vers les entrailles d'où tout est sorti. C'est comme ça qu'il pense séduire la lune, le benêt. Qu'elle soit jalouse des frissons que je donne à toute heure au rayon. J'y crois pas une minute. J'en profite quand même pas mal, faut le dire, de la situation critique, moi, la mer. Le feu. Tout vient de la destruction. Par le feu, je me le dis. La terre. Si le message ne s'était pas transmis de végétation en végétation, tu serais bien avancé, feu, sous la dépendance de deux silex. Le feu. Ta richesse, soi-disant, la couleur de l'autre, si qu'on veut, les plages où se vautre la troisième canaille, tout vient du feu. Je le répète, y compris les pinces du crabe sorcier. Je ne le dis pas assez. Assez, vous autres, respectez le silence auquel vous avez droit. J'ai dit, moi, le feu. Troisième scène. Cratère. Tous, sauf le feu. Oui, alors, unis-nous dans un incendie à la dimension du monde, total. Le feu, ça se passera hors du monde fini, qui fait que vous êtes, que vous étiez. La terre, laissez mûrir encore, par moi, bien sûr. L'air, même cette chambre noire, c'est moi qui la profile. D'où viennent tes paroles, feu? On dit feu de quelqu'un quand il est mort, pas vrai? J'ai l'humeur tout à moi. Par moi, les populations de la terre portent des barbes d'écume. Hourra ! La mer. Mais les fonds, petit, ça t'échappe. Les fonds. Je renonce à te les décrire. Tes mots volettent. L'air. Toi, ma belle, je te pompe vers le dehors. Je pleus là où il en est besoin. Égoïste, qui n'y pensait pas toute seule. La mer. Le feu. Chut, je lèche vos différences. Personne ne lèche comme moi. Tous sauf le feu. Alors lèche-nous tomber, une nouvelle fois, voir. Quatrième scène, éruption. Le feu. Je peux donner des exemples précis. Combien de vos êtres sont restés rouges à la vie et à la mort, à la bonne heure, je me le dis à moi-même. L'air. Le lait que tu fais bouillir, feu, j'en ai fait avant toi un mélange vivant par la bâtardisation des nomades. Elle qui se croyait pure de ne jamais se survivre, faut-il être méchante et bornée? La terre. Toi, air, je t'aime de ne pas nous bercer des espérances des philosophies abstraites. Mais j'ai aussi ma mère intérieure, conçue avec le feu, qui est l'amant grâce à qui l'espoir est passionnel. Je dois le reconnaître, terre, avec deux R, terre, pour ne pas dire terre, avec un seul R, A-I-R. Je voulais le dire une bonne fois. La mer. Elle me fait concurrence, la petite salope. Si l'air sait être chaud, c'est parce qu'il se baigne dans mes courants d'amour, nom de Dieu. L'air, comme vous tous, sa peur est de se retrouver seul, tournant en rond dans un bocal. Je vous amène le plus que parfait, et je me fiche que vous soyez vantard, voyez-vous. L'air, je ne prends de toi que de petites doses, tu sais pourquoi ? Le feu. Je vous ai tous formés, imbécile ! Il n'est pas question de pouvoir, je me le dis. Ah, tous sauf le feu. Toi, nous t'appellerons désormais sécheresse, sécheresse contagieuse, sécheresse de cœur, pluie métallique, assassin. Le feu pleure de l'acier. La mer ne sait pas pleurer. Regarde, toi, tu fais encore du mal, aucun courage. Le feu, d'une voix de blocos, je vous ai tous déformés, ingrats. Regardez la feuille de papier, la forêt, la cité entière entre mes mains, ingrats, ingrats. Ne vous en prenez qu'à vous. Qui êtes-vous ? Tous sauf le feu. Nous mourrons de faim. Cinquième et dernière scène, lave. Le feu, le sang bout sur toute la terre. Je ne sais plus m'arrêter. J'ai beau ressasser, recracher les causes de tout ça. Je suis impuissant contre moi-même. La terre. Chacun d'entre nous doit se prostituer pour connaître l'autre, que ce soit dans un but d'union ou de destruction. Le feu. L'union ? Mais c'est encore la destruction. Ça n'est pas la solution. Où est la solution ? À part en moi, le feu. La mère. La mère dit qu'elle ne peut qu'attendre. Vous précipitez son heure. Adieu. La terre. À part ça, la fin ? La fin de tout ? L'air. Osez reconnaître que je m'éloigne. Moi, l'air, vous vous en foutez. Personne n'a parlé de moi. Osez reconnaître que je m'éloigne. Vous ne manquez pas d'air. Adieu tous.
Merci beaucoup pour cette chronique paysagère. Donc aujourd'hui, c'était une émission consacrée à Maïakovski. Et donc cette belle mise en abîme inspirée d'Adamov, c'est ça, Combor ?
Un peu plus que Maïakovski aussi. Hein.
On aimerait faire quelques annonces pour l'actualité théâtrale, notamment le spectacle de Boss Compagnie de Michel Laforêt qu'on a déjà invité ici, qui donc s'appelle
Un petit garçon.
Et qui aura lieu le 1er juin à 21h au Théâtre de l'Iris. Donc le Théâtre de l'Iris est situé à Villeurbanne.
Oui.
Voilà, donc ne manquez pas ce spectacle. La semaine prochaine, nous accueillerons Julien Aubrin, qui va donc venir nous lire aussi un de textes complètement imaginés, inventés, écrits par lui et un coéquipier, donc.
Et oui, il y aura aussi, je crois, des slameurs qui seront invités à cette occasion.
Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire bon après-midi. Merci
bon après-midi.
À tout le monde. Et puis à la semaine prochaine.
À la prochaine semaine hebdomadaire.